Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, a lancé récemment son rapport sur l'état de la population mondiale 2013 qui indique que la grossesse chez l'adolescente est un problème mondial immense, en particulier dans les pays en développement où chaque année, 7,3 millions de filles de moins de 18 ans mettent un enfant au monde. Le rapport de l'UNFPA précise que sur les 7,3 millions de mères adolescentes, 2 millions ont 14 ans ou moins. Et ce sont elles qui subissent les conséquences les plus graves et dans le long terme pour leur santé et sur le plan social. Bonjour à toutes et à tous, au micro Jean-Pierre Amissi Ramazani. Pour traiter de ce sujet, nous avons joint Benoît Kalassa, le directeur du bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la Population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, basé à Dakar au Sénégal. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, ainsi que Najat Mahal-Amjid, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente des enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie impliquant des enfants, interviendront aussi dans ce magazine. Présentation du rapport de l'UNFPA avec Benoît Kalassa.
Comme vous le savez, chaque année, nous lançons un rapport mondial sur une thématique donnée. Et cette année, nous avons choisi un thème qui est au cœur du respect des droits de jeunes filles et de jeunes femmes, qui s'intitule « La mère-enfant face au défi de la grossesse chez l'adolescente ».
Est-ce que vous avez des chiffres? Quelle est l'ampleur donc de ce problème? Combien y a-t-il d'adolescentes ou d'enfants mères?
Nous estimons qu'il y a près de 8 millions de naissances qui proviennent des filles de moins de 18 ans. Ça, c'est un premier chiffre. Sur ces 8 millions, il y a un quart, soit 2 millions, dont les naissances proviennent des filles de moins de 14 ans. Et globalement, de ces 8 millions, 95% des naissances proviennent dans les pays en développement et l'Afrique a une grande part dans ce pourcentage.
Ok, alors quelles sont les conséquences des grossesses chez les adolescentes?
Les premières conséquences, d'abord sur la santé de la jeune fille elle-même. Une fille de 14 ans ou de moins de 18 ans n'a pas encore physiologiquement, biologiquement un corps complètement développé. Et la première conséquence, c'est les décès. Donc il y a beaucoup d'adolescentes qui décèdent au cours de l'accouchement ou à cause de leur grossesse. Et ce chiffre-là, on estime à peu près 30 000 décès chaque année de jeunes filles de moins de 18 ans qui décèdent à cause de la grossesse. La deuxième conséquence, c'est la morbidité. Beaucoup de ces jeunes femmes arrivent à avoir des enfants, mais dans des conditions telles qu'elles en sortent handicapées. C'est ce qu'on appelle les fistules obstétricales. C'est une maladie qui dégénère dans ce sens qu'elle résulte en un rejet par la société. Les hommes qui ont fait les enfants avec ces filles les rejettent et souvent la famille même de ces femmes les rejette. Nous, en tant que Fonds des Nations Unies pour la Population, nous nous occupons donc de la réparation de ces fistules-là et de la prise en charge et de l'insertion communautaire. Troisième séquence, c'est une fille de 14 ans ou de moins de 18 ans qui tombe enceinte, évidemment, elle ne reste plus à l'école. Elle sort du système éducatif. Et sortir du système éducatif, ça veut dire que la capacité d'autonomisation de cette jeune fille dans la société diminue. Donc son risque de vulnérabilité, d'exposition à la pauvreté augmente.
Benoît Kalassa, une fois que le mal est fait, que la grossesse est constatée, que conseille le FNUAP? Laisser faire ou recourir à des pratiques comme l'avortement?
Non, justement, nous on ne considère pas l'avortement comme une pratique à conseiller. Ce que nous conseillons, c'est les jeunes filles qui tombent enceintes et qui sont chassées du système scolaire. Se faire une approche de plaidoyer pour qu'une fois l'accouchement fait, que ces filles-là puissent être reprises dans les circuits scolaires et compléter un cycle ou apprendre un métier. Deux, c'est agir en amont. Et c'est ça le plus important. Quels sont les facteurs qui font qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, et quand je dis dans nos sociétés, en Afrique de l'Ouest et du Centre, par exemple là où je suis, la prévalence est très élevée. Donc quand vous verrez le rapport, la cartographie montre des taches sombres dans nos pays.
Je voulais justement vous poser une question, de savoir ce qu'il faut faire pour prévenir, si pas éliminer les grossesses chez les adolescentes.
Voilà. Nous travaillons sur trois choses. Un, empêcher ou lutter contre les mariages précoces. Parce que sur 20 pays de la région, par exemple en Afrique de l'Ouest et du Centre, on voit que le mariage précoce est très pratiqué. Par exemple, au Niger, il y a 36% des filles qui sont mariées avant l'âge de 15 ans. Au Mali, au Tchad, au Niger. Donc, dans tous ces pays-là, ce que nous essayons maintenant, c'est de travailler avec les communautés, avec les leaders religieux, avec les hommes, avec les femmes, pour que l'âge au mariage soit maintenu à au moins au-delà de 18 ans. Donc ça, c'est déjà le cadre légal qui protège la jeune fille. Comme ça, on maintient la jeune fille dans le système scolaire. Deux, c'est donner les informations nécessaires à ces jeunes filles sur la connaissance de leur corps, ce que nous appelons l'éducation sexuelle compréhensive, hein, qui les renseigne sur ça. Trois, c'est former les prestataires de santé à accepter de donner l'information et si possible, à les prendre en charge quand il y a des complications. Parce que j'ai parlé de la mortalité maternelle tout à l'heure, à laquelle contribuent beaucoup ces adolescentes. Pourquoi ? Parce qu'elles recourent à des avortements non médicalisés. En ce moment-là, il est notre devoir de protection de prendre en charge les complications liées aux avortements à risque. Une dernière piste, ce sont tous les déterminants sociaux. On parle de valeurs culturelles, on parle de valeurs religieuses. Mais ces problèmes-là, quand vous les recentrez autour des questions de droits humains, parce que c'est une violation, ce sont des violences que l'on fait à l'égard de ces jeunes filles, quand on parle de problèmes de droits et de dignité et de respect, en ce moment-là, on arrive à faire comprendre aux leaders traditionnels, aux leaders religieux, que ce n'est pas acceptable de sacrifier les vies et de compromettre les vies des jeunes filles et des jeunes femmes.
Oui, mais alors, si les autorités coutumières rétorquent en disant que c'est notre culture, on a toujours marié nos filles jeunes comme ça, et que ça fait partie de notre culture, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre, vous ?
Ce que nous leur disons, que ça peut-être était le cas, mais ce n'est plus le cas dans le monde d'aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui. Et nous sommes en train de le faire. Au Niger, nous avons créé, par exemple, ce que nous appelons l'école des maris, où nous mettons dans la communauté les hommes en face de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs filles, vis-à-vis de leurs femmes, pour empêcher, dans un cas, les mariages précoces, et dans l'autre, pour accepter que leurs femmes fréquentent les centres de santé pour que leurs femmes soient informées des méthodes de contraception modernes et pour que les femmes puissent aller accoucher dans des centres de santé. Donc, ça change. On a vu cela non seulement donc au Niger, mais en Éthiopie, nous menons la même lutte. En Sierra Leone, nous menons la même lutte. En Côte d'Ivoire, en Mauritanie. Donc, nous voyons sur le terrain des changements. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible dont nous parlons ici. C'est quelque chose de faisable et qui marche.
Malaika, nakupenda malaika.
À propos justement des mariages précoces et forcés, la lutte et les témoignages de la vedette béninoise de la chanson et ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, Angélique Kidjo, au micro de Christina Silvero.
Un enfant a besoin d'amour et de soutien. Un enfant, ce n'est pas une marchandise. Et ça, je l'ai appris de mon père. Et si mon père, un homme africain, a été capable de dire non à sa famille, à la société dans laquelle on grandissait, en disant que mes filles ont droit à l'éducation pour pouvoir décider de leur vie et de leur futur, aucun père au monde ne peut me dire que ce n'est pas possible. Donc c'est une question de décision qui est prise, c'est une question d'aimer son enfant complètement, que cet enfant soit garçon ou fille, ça n'a pas d'importance. Et si moi je suis là aujourd'hui en train de vous parler, c'est parce que mon père a été la personne qui m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, il est indispensable que toutes ces petites filles qui souffrent en silence, qui voient du jour au lendemain, qui ne comprennent rien ce qui leur arrive, qui se retrouvent dans une autre maison pour servir d'abord de bonnes à tout faire jusqu'à ce qu'elles aient leur première aide pour devenir mère, ne comprennent pas pourquoi leur vie a été arrachée. On ne peut pas rester ici en se disant nous sommes fiers de faire partie d'une famille, de la même famille humaine, et qu'on soit silencieux, c'est pas possible, on ne peut pas se le permettre.
Alors qu'est-ce que vous faites justement au niveau de votre engagement pour cette cause ?
Moi j'en parle beaucoup, et comme je viens de le dire, mon prochain album est dédié aux femmes africaines. Aux femmes africaines par rapport à leur résilience et à leur beauté. Et ce projet a commencé au Kenya. L'été dernier, où j'étais en voyage avec l'UNICEF, pour le sujet de la malnutrition sévère de l'enfant. Donc c'est pour ça que j'ai vu la beauté des femmes et leur résilience dans cette condition-là, comment elles arrivent malgré tout à élever leurs enfants dans des conditions les plus difficiles possibles et qu'ils ne baissent pas les bras. Bon, moi, pour moi, la musique me permet d'être le relais de ce courage-là, de cet engagement de ces mères qui n'ont rien et des gens comme tous ceux qui sont venus aujourd'hui qui travaillent derrière pour qu'on vote des lois contre le mariage forcé, le mariage précoce, contre l'excision des femmes. Il faut que ça soit relayé auprès du public. Il faut que les gens savent. Ceux qui se souffrent de ça ne se sentent pas seuls ni isolés. Moi, c'est mon engagement, ça. Et cet engagement ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas réussi à faire de la femme un être humain à part entière qui est en mesure de prendre des décisions pour sa vie, de décider de son futur et de ne pas être toujours celle qui est derrière ou celle qui est un accessoire pour un homme. Il n'y a pas de rêve suffisante pour qu'un enfant n'ait pas le droit de décider de son futur. Moi, je refuse.
Et Najat Mahal Amjid, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente des enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie impliquant des enfants, a effectué récemment une mission au Bénin. Voici son constat.
Un grand point qui est très alarmant, c'est le nombre d'abus sexuels, de harcèlement sexuel et de viols que subissent les filles dans les écoles, avec un nombre tellement important de grossesses. Juste pour vous donner un chiffre, dans une des écoles, on nous a cité que sur 1000 élèves, à peu près, il y avait 500 filles qui avaient une grossesse très précoce. Et donc ça, c'est quand même un phénomène tellement alarmant que le ministère de la Santé a appelé ça épidémie de grossesse précoce avec toutes les complications que ça comporte. Donc beaucoup, beaucoup de violences, beaucoup, beaucoup d'abus et beaucoup d'exploitation des enfants avec réellement, malgré les efforts menée par beaucoup d'acteurs, très peu d'impact, tant au niveau de la protection effective des enfants qu'au niveau de la prévention et qu'au niveau aussi de la justice. Alors, chaque fois que vous allez quelque part, on vous explique que le mariage précoce est forcé, que les enfants travaillent pour leurs parents, que les filles soient mariées précocement, que les enfants soient abusés, soient enceintes, c'est justifié par deux points, la pauvreté, mais surtout les traditions et les coutumes. Si les coupables ne sont pas sanctionnés, c'est normal, c'est la coutume. Or, je trouve que c'est impensable réellement de justifier ça uniquement par les coutumes et les traditions, parce que clairement, on a l'impression qu'à ce moment-là, dans les coutumes et traditions béninoises, il n'y a que de la violence. Or, il y a des pratiques endogènes de protection. Je vous donne juste un exemple. Le confiage, donc les filles placées en tant que vidomégon, au début, c'était réellement une sorte de parrainage où la fille d'une famille pauvre était placée dans une famille élargie et donc où elle était protégée, éduquée. Maintenant, c'est perverti, clairement et nettement. Et puis, il y a le grand volet aussi, je pense, d'une instrumentalisation et de ces traditions et coutumes, parce que vous avez un grand taux d'analphabétisme, vous avez des familles qui sont des démographies galopantes, hein, donc vous avez 6 points et quelques d'enfants par femme, et puis vous avez aussi toute cette pauvreté. Donc, clairement et nettement, je ne peux pas accepter, moi, personnellement, qu'au nom des traditions et des coutumes, on puisse exploiter les enfants, et surtout que les décideurs politiques justifient tout cela par le poids des traditions et des coutumes.
Enfin, la conclusion de Benoît Kalassa.
Quand une adolescente tombe enceinte, sa vie présente et son avenir changent radicalement. Mais c'est rarement pour le mieux. Donc c'est son avenir qui est gâché. Chaque année, il y a 70 000 jeunes adolescentes dans les pays en développement qui meurent des complications des grossesses et de l'accouchement. C'est cela que nous devons arrêter.
C'est sur cette note que s'achève le magazine Escale, consacré à la problématique des grossesses chez les adolescentes, avec notre invité Benoît Kalassa, le directeur du bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Angélique Kidjo et Najat Mahal Amjid se sont aussi exprimés dans ce programme. Escale est un magazine de la Radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani, avec l'assistance technique de Rebecca Mudio et de Carlos Macias. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.